présentation. Après la présentation philosophique que vous avez faite de la question de la déconstruction, je vais donner à titre de première approximation un ensemble d'éléments concernant le mouvement de la déconstruction en utilisant d'abord la structure de l'argumentation du livre de Hélène Pluck-Rose et James Lindsay, qui s'appelle donc Les impostures intellectuelles, et des éléments qui proviennent des travaux de Pierre-André Taguieff, particulièrement les deux derniers livres, c'est-à-dire L'antiracisme devenu fou et Nietzsche. Bon, le livre américain vise à critiquer l'influence des théories de la justice sociale, avec toutes sortes de majuscules, qui se sont répandues dans les sciences humaines et sociales aux États-Unis sur plusieurs décennies. Les auteurs dégagent deux principes postmodernes relatifs à la connaissance et à la politique. Premièrement, sur la base donc, d'un constructivisme culturel, c'est un scepticisme radical qui est orienté vers la déconstruction systématique des sciences et de la culture. Deuxièmement, les systèmes sociaux de pouvoir et de hiérarchie déterminent un savoir dont la fonction est de domination, ce pourquoi il faut le déconstruire. Alors cet ouvrage répond à plusieurs tâches cruciales qu'on peut rappeler. D'abord, il y a une analyse des circulations d'idées entre l'Europe et l'Amérique. Il y a également une périodisation du mouvement depuis les années 1960 et bien sûr pour une périodisation plus longue. Il faut, comme l'a fait Pierre-Henri Tavoyot, restituer cet ensemble de la philosophie moderne dans sa critique des dogmes. Après quoi, il faut obligatoirement mentionner le moment important, associé à deux noms au moins, Nietzsche et Heidegger, pour les bases philosophiques de la déconstruction. Des convergences se dessinent donc dans les années 1960 entre des disciples de Nietzsche et de Heidegger, un certain marxisme, une mouvance dite structuraliste. Bon, mais c'est sur ces bases trouvées chez Nietzsche et Heidegger où on a une importance considérable de la question de la vérité, hein, en plus des problèmes de domination qui vont être repris. Par ailleurs, on trouve dans ce livre une esquisse de l'analyse des causalités et je crois qu'il faut retenir en effet la réaction à l'échec du marxisme qui est manifeste dans le rejet des méta-récits. Il y aurait beaucoup à ajouter pour compléter l'analyse des facteurs sociaux, y compris dans la question très importante de la diffusion et des modes d'implantation académique. Par exemple, Pierre Vermeeren disait dans quelques échanges il avait des idées sur la manière dont on mobilise ici des milliers de jeunes gens en un tournement pour une pétition à mettre en relation donc avec une comparaison du nombre de postes offerts à occuper donc, dans la recherche d'enseignement et du nombre de docteurs et de doctorants. Et de là, des raisonnements pourraient s'esquisser sur, non pas des méthodes d'embrigadement, mais des conditions dans lesquelles des tentations se présentent. Bon, la perspective de réfutation maintenant de ces impostures intellectuelles dans le livre américain se situe sur les deux plans correspondant aux deux principes postmodernes. D'abord, sur le plan cognitif, ce courant est dogmatique et faux. Et deuxièmement, sur le plan politique, ce courant est socialement contre-productif. Toute cette production d'idées redescend dans la société, il faut comprendre comment. Alors, ce qui m'importe plus particulièrement pour ma part est d'approfondir la formation de cette idéologie de substitution. Et à cet égard, le plus marquant me semble observé par Pierre-André Taguieff, savoir que des débuts du mouvement postmoderne vers 1960 à aujourd'hui, on assiste à une série de renversements. Ce courant postmoderne qui prétendait rejeter les métarécits occidentaux, on a créé, et beaucoup, qui sont aujourd'hui ressassés et durchis dans une espèce de manichéisme. Du scepticisme extrême, le courant des constructeurs est passé au dogmatisme. Du relativisme culturel et moral, il est passé à l'absolutisation d'une série de causes victimaires. Du refus des interdits en tout genre, il est passé à des pratiques de censure en tout genre. Et de la crise du communisme marxiste, il est passé à la restauration, si je puis dire, d'une pensée révolutionnaire. Donc je pense que de la déconstruction, ce mouvement est passé à la reconstruction, chaotique certes, mais très offensive. D'où la nécessité de répondre à cette machine de guerre par la critique, bien sûr, mais aussi dans l'horizon d'une reconstruction, comme le propose ce colloque.
Merci beaucoup, Véronique Taquin. Vous insistez, c'est un point dont il faudra débattre, qui est très, très intéressant, sur le fait qu'il y a une forme de dialectique dans le mouvement des constructionnistes, qui est un peu paradoxal pour un mouvement qui a pu critiquer la dialectique, et qu'au fond, la constitution au cours d'un ordre moral, au fond, caractérise et trahit en quelque sorte ses origines libertaires. Si je comprends bien, ça peut être un point de débat entre nous d'ailleurs, sur le fait qu'il y a une critique déconstructionniste H2 de la déconstruction H3, si je reprends mes catégories. Mais on pourra en parler tout à l'heure. Pierre Vermeren, vous êtes historien. Vous êtes professeur à l'Université de Paris 1 et vous êtes également donc auteur spécialisé sur les questions d'histoire du Maghreb, histoire contemporaine du Maghreb, avec des ouvrages qui ont fait date, et puis aussi des essais récents, dont je cite les deux derniers, « L'impasse de la métropolisation » chez Gallimard 2021, et puis « On a cassé la République » en 2020, personnellement, un ouvrage que j'ai vraiment trouvé admirable. Et donc, j'imagine que votre approche portera peut-être sur la dimension coloniale, peut-être, de ce moment déconstructionniste.
Merci beaucoup, Pierre-Henri, et merci à vous tous d'être venus à ce colloque. Alors, je m'inscris totalement dans la filiation de ce que vous avez dit sur l'ontologie de la violence. On pourrait même prolonger la métaphore en revenant à Lénine présentant l'impérialisme comme le stade suprême du capitalisme et annonçant bien sûr sa destruction. Alors moi je vais en tant qu'historien revenir sur les conditions d'élaboration de cette idéologie, de cette pensée et revenir notamment, donc je parle du troisième âge de la déconstruction et on parle de la pensée 68. En réalité, la pensée 68, elle est née quelque part. Et pour moi, c'est mon hypothèse, je l'inscris dans le processus de décomposition dramatique et sanglant de l'Algérie française. Cette French Theory a des origines françaises. Alors, parce que la 1962, c'est à la fois la fin de l'Empire colonial français, c'est la fin du colonialisme européen, Portugal mis à part, pardon. C'est l'effondrement matériel de l'universalisme français et européen réinventé sous la Révolution française. Donc, il y a eu un messianisme révolutionnaire de la liberté des droits de l'homme que Napoléon a exporté en Europe, puis que la France et la République ont exporté, par substitution à l'Europe, si je puis dire, dans le monde colonial, en Afrique et en Asie, au XIXe siècle. Il y a un projet donc de civilisation des peuples supérieurs. Vous connaissez cette rhétorique. Or, 1962 et la guerre d'Algérie, en ce sens, signent la fin de deux siècles presque de messianisme, d'exportation de la civilisation. A-t-on mesuré ce que signifie la fin de cette expérience presque doublement séculaire ? C'est l'effondrement d'un projet, du projet de civilisation, je ne dis pas d'assimilation parce qu'en réalité elle n'a presque été menée nulle part. C'est un fiasco politique collectif gigantesque des élites politiques françaises de toutes obédiences, des droites extrêmes jusqu'au Parti communiste, qui ont porté jusqu'au bout le projet d'assimilation et d'indivisibilité du territoire algérien à la France et à la métropole. Si vous voulez, c'est une rive gauche du Rhin qui s'est libérée au bout de 130 ans par elle-même, pas par les Russes au bout de 25 ans. Hein. Donc, c'est vraiment le projet français qui s'effondre. Hein. Et cet effondrement politique et moral se double d'un effondrement matériel, un projet centenaire d'investissement, de construction, dont il ne reste pratiquement rien, en tout cas du point de vue de la France et des Français d'Algérie. Et c'est un projet qui avait été porté par la République, par les gauches, par tous les courants du nationalisme et du patriotisme français, par le syndicalisme, par l'Église catholique, c'est-à-dire par le monde intellectuel, c'est-à-dire par la totalité des élites françaises. Et ça aboutit donc à une dislocation sanglante, inutilement meurtrière, qui a causé, après l'Indochine, à nouveau près de 500 000 morts. Près de 500 000 morts. Et traumatisé et dévasté, pour rien, des populations entières. Et j'ajouterai un dernier trait, c'est le désarroi des assimilés. Ils ne sont pas très nombreux, mais notamment, je pense aux Juifs algériens, naturalisés depuis un siècle, malgré Vichy, et qui sont chassés de leurs terres ancestrales en tant que pieds noirs et colons. Et je pense aussi au sort des petits blancs, entre guillemets, issus de toutes les misères méditerranéennes qui s'étaient installées en Algérie et qui sont transformés en agents de l'impérialisme. De cet effondrement civilisationnel, moral, politique, historique, de ce fiasco de l'universalisme civilisateur à la française, naissent énormément de choses. En vrac, très vite, la guerre civile française menée par l'OAS. Le soutien inconditionnel de la France au régime algérien et la politique arabe de la France. Le changement de pied de l'Église catholique au bout de 14 siècles, qui, après avoir vu dans l'islam une hérésie, tout d'un coup voit dans l'islam une voie d'accès à Dieu, et l'épiscopat français imposant cette vision à l'Église universelle lors de Vatican II. La transformation de la gauche politique en instance idéologique nouvelle, la deuxième gauche, dont il aurait été bien que Jacques Julliard, évidemment, soit présent. La reconversion du projet universaliste français, qui ne va plus essayer l'expansion de ses idéaux révolutionnaires par les armes ou à l'extérieur de ses frontières, mais qui va au contraire importer désormais des populations d'Afrique pour réussir ce qui n'a pas été fait en Algérie, cette fameuse assimilation, intégration, etc. Et c'est là qu'on arrive aux marges desquels Derrida va nous parler, et dans lesquels vont naître cette pensée post-structuraliste de la déconstruction. C'est comme si cette pensée, c'était le choc en retour de l'impérialisme, de la normativité, de la centralisation et du jacobinisme français, qui, par un retour sous forme de boomerang, atteint désormais la métropole. Alors, je ne sais pas ce que va dire notre collègue par Zoom, Albert Doja, sur l'imposture Derrida, mais donc je ne vais pas dévoiler cette affaire, mais je vous renvoie à un texte lumineux, pour moi, en tout cas, même s'il est éprouvant, d'un universitaire britannique, Robert Young, qui a été le diffuseur de la pensée française, de la pensée 68 ou de la pensée de la déconstruction au Royaume-Uni, et qui est en quelque sorte le frère idéologique de Derrida, même s'il est plus jeune que lui. Cet article s'intitule « Subjectivité et histoire », vous le trouverez sur Cairn, « Derrida en Algérie », revue littérature 2009, etc. C'est un mauvais titre, parce que c'est plutôt Derrida, le français algérien, comme il se définit lui-même, selon sa propre expression. Donc, dans ce texte, l'auteur revient sur la généalogie de la pensée de la déconstruction chez Derrida, confronté à sa biographie personnelle, on pourrait dire familial, à son être. C'est presque une analyse, c'est analytique en réalité, et de sa production littéraire. On perçoit donc le lien direct, immédiat, puissant, entre l'effondrement du monde colonial poussé à l'extrême de son ambition, ce qu'a représenté la volonté française d'assimiler un territoire d'Afrique à la civilisation française, et au surgissement donc de la déconstruction. Tous les mots sont déjà là, tous les concepts, toutes les, ces marges, la langue, les minorités, la créolisation, tous les auteurs aussi, tous les acteurs de la pensée 68, de la pensée de la déconstruction, ont été témoins de l'effondrement de l'Algérie française. Hélène Sixous, Jacques Derrida, Sartre, Fanon, Althusser, pied noir alsacien, Lyotard, Bourdieu, qui faisait son service militaire en Algérie, Mémy et Foucault depuis Tunis, tous originaires ou ayant vécu en Algérie, mais aucun, notamment des juifs assimilés par la France, bien sûr, juifs algériens, mais, ou tunisiens, mais aucun arabe ni berbère. Et je vais, pour conclure, vous lire, pour vous mettre l'eau à la bouche et pour donner un peu de poids à ce que je dis, vous lire deux extraits très brefs. Le premier d'Hélène Sixous, dans son livre « La jeune née » de 1975, « Avoir vu les Français au sommet de l'aveuglement impérialiste se conduire sur une terre habitée par des humains, comme si elle était peuplée de non-êtres, d'esclaves nés. De ce premier spectacle, j'ai tout appris. J'ai vu comment le monde blanc, français, supérieur, plutocratique, civilisé, instituait sa puissance à partir du refoulement de populations soudain devenues invisibles, comme le sont les prolétaires, les travailleurs émigrés, les minorités qui n'ont pas la bonne couleur, les femmes, invisibles en tant que... Vous voyez, tout est dit. Invisibles en tant qu'humains, mais bien sûr perçus en tant qu'instruments, sales, bêtes, paresseux, sournois, grâce, donc on est dans la domination, pour ne pas dire l'écrasement, grâce à la magie dialectique anéantissante, j'ai vu que les beaux grands pays avancés s'érigeaient en expulsant l'étrange, en l'excluant, mais pas trop loin, en l'asservissant. Dès lors, un seul mot d'ordre intellectuel, je reprends la parole, dès lors, un seul mot d'ordre intellectuel, politique, idéologique, retourner le logos européen contre lui-même, le verbe français contre lui-même. Et je termine par cette phrase sur Derrida. Derrida, ni français ni algérien, donc là c'est l'auteur britannique qui parle, Derrida, ni français ni algérien, toujours cosmopolite et antinationaliste, critique de l'ethnocentrisme occidental dès la première page de la grammatologie, préoccupé de justice et d'injustice, développa la déconstruction comme procédure de décolonisation intellectuelle et culturelle au cœur de la métropole pour laquelle il s'embarque sur le ville d'Alger, le navire en 1949 et vers laquelle il était retourné après avoir effectué son service militaire en Algérie en 1957-59 au nom d'une France qui n'attendait aucune ambivalence de sa part, bien qu'elle l'eût rejeté, dépossédé, puis réadmis dans la citoyenneté française. L'opération chirurgicale de la déconstruction a toujours été dirigée vers l'identité de la violence ontologique dont se souviennent la métaphysique occidentale et les systèmes idéologiques avec la force et la violence réelle qui ont appuyé les nations occidentales dans leur politique coloniale et impériale, CQFD. Voilà, tout est sur la table depuis 60 ans. Merci.
Merci à tous les deux de te dire parfaitement l'objectif, donc d'identifier ce moment fondateur pour vous et ce glissement à chaque fois. Donc c'est la même question que je vais poser à Albert Doja, dont j'espère qu'il est en ligne, qui va justement lui aussi présenter ce qui lui apparaît être comme le moment fondateur du déconstructionnisme. Donc Albert Doja est professeur d'anthropologie à l'Institut de sciences sociales de l'Université de Lille. Il est spécialiste de l'anthropologie de l'Albanie, notamment avec un ouvrage que j'ai découvert grâce à ce colloque, et qui s'intitule donc « Naître et grandir ». Pour moi qui travaillais sur les âges de la vie, ça a été une découverte tout à fait intéressante. Albert Doja, est-ce que vous nous entendez, j'espère?
Oui.
Vous avez la parole. Merci beaucoup de votre présence.
Oui, merci. Et moi, je voudrais revenir sur un épisode un peu un événement un peu épisodique du déconstructionnisme que je considère en quelque sorte comme fondateur, malgré son épisodicité. La grammatologie de Jacques Derrida est considérée comme parmi des textes fondateurs. Et dans ce texte, Derrida a fait valoir tout au long de la tradition philosophique occidentale, c'est l'écriture qui est considérée comme une simple forme dérivée, comme une chute de la présence totale de la parole. Alors qu'il a voulu déconstruire cette position logocentrique, qu'il affirmait apparaître chez plusieurs penseurs comme Ferdinand de Saussure ou Jean-Jacques Rousseau, Derrida attaque principalement Claude Lévi-Strauss et son modèle de structuralisme qui est venu dominer la scène intellectuelle parisienne dans les années 60. Dans cette critique, beaucoup trop lue, Derrida a affirmé montrer les faiblesses et contradictions supposées dans l'interprétation de l'écriture de la part de Lévi-Strauss et sa caractérisation de la société moderne industrielle par la pathologie de la communication écrite. Il y a environ 15 ans, j'ai revisité la lecture déjà classique que Derrida a faite de Lévi-Strauss sur l'écriture dans un article publié dans la revue Critique of Anthropology, publié par Sage en 2006, et j'ai plaidé dans cet article contre la plupart des commentateurs et critiques postmodernes que cette lecture influente a faussement interprété l'enjeu scientifique et la mission humaniste de Lévi-Strauss. En particulier, Derrida a mal interprété la vraie contribution théorique et épistémologique de Lévi-Strauss à la connaissance générale. En revanche, cette attaque fut exemplaire et influente dans le sens qu'elle a rassemblé presque tous les éléments didactiques qu'on connaît, essentiels du tournant déconstructionniste. Dans une certaine mesure, sa ligne de critique semble moins un argument audacieux contre la théorie de Lévi-Strauss qu'une posture idéologique dogmatiquement antistructurale qui repose sur les idées reçues de la couverture médiatique excessive d'une critique très souvent non fondée. Nous connaissons tous probablement que dans le célèbre chapitre des Tristes Tropiques sur la leçon d'écriture, Lévi-Strauss a décrit l'irruption violente de l'écriture dans la société nambiquara. Lorsque le chef nambiquara parodiait grossièrement l'acte d'écriture en imitant l'ethnographe prenant ses notes, c'était, dit Lévi-Strauss, pour découvrir en même temps sa fonction de subjugation. Et je cite Lévi-Strauss, « L'écriture avait donc fait son apparition chez les nambiquois, mais non point comme on aurait pu l'imaginer au terme d'un apprentissage laborieux. Son symbole avait été emprunté tandis que sa réalité demeurait étrangère, et cela en vue d'une fin sociologique plutôt qu'intellectuelle. Il ne s'agissait pas de connaître, de retenir ou de comprendre, mais d'accroître le prestige et l'autorité d'un individu ou d'une fonction aux dépens d'autrui. Cette leçon d'écriture est devenue la cible de la violence de la lettre de Derrida dans sa grammatologie, une lecture classique avec un verbiage non moins classique, par laquelle Derrida a voulu montrer comment la théorie de l'écriture est apparemment démontrée et justifiée, mais avant son énonciation réelle. Le chef nambiquara a utilisé l'écriture, en effet, sans connaître l'origine réelle de la vraie écriture, comme elle aurait naturellement évolué au fil du temps dans un espace social et culturel donné, ni la manière dont elle fonctionne, ni le contenu qu'elle signifie. Selon Derrida, le fait d'imiter sans comprendre est une représentation tronquée et caricaturée de l'utilisation de l'écriture qui semble ouvrir et couvrir tout l'espace dans lequel Lévi-Strauss va maintenant penser l'écriture. Selon Derrida, c'est le seul moyen qui permet à Lévi-Strauss de démontrer le but de l'écriture comme étant politique et non théorique, c'est-à-dire en vue d'une fin sociologique plutôt qu'intellectuelle. Or, compte tenu de l'expérience ethnographique de la société nambiquara propre à Lévi-Strauss, Il n'est pas exagéré de considérer que la violation primaire dans l'incident de l'écriture est une sorte d'exploitation, un instrument déterminant plutôt qu'une utilisation intellectuelle de l'écriture qui est tournée vers une sinistre manipulation des autres. Et en effet, comme le dit Lévi-Strauss, dans le village Nambiquara, les fortes têtes étaient tout de même les plus sages. Ceux qui se désolidarisèrent de leur chef, après qu'il eut essayé de jouer la carte de la civilisation, comprenaient confusément que l'écriture et la perfidie pénétraient chez eux de concert. Ainsi, ceux qui se sont séparés du groupe ont dû fonctionner comme une sorte de mécanisme d'autocorrection par un réflexe quasi automatique qui a déjoué la transgression du chef. Avec une prévoyance inhabituelle et un don d'anticipation, ils ont vu leur chef comme implicitement assimilé à la civilisation qui avait été directement ou indirectement la cause des malheurs de son peuple. Pour Lévi-Strauss, la conclusion justifiée fut la punition de l'hubris du chef par la perte de son pouvoir. N'empêche que la critique de Derrida est destinée contre Lévi-Strauss et sa caractérisation des Nambiquara, dont le niveau de développement culturel est comparé à celui des populations du néolithique comme un peuple sans écriture. L'hypothèse de Lévi-Strauss, selon laquelle la culture néolithique ne possédait pas de système d'écriture, est fondée sur une conception singulièrement étroite de l'écriture, c'est-à-dire, selon Derrida, sur l'écriture occidentale alphabétique et phonétique, qui n'est qu'un seul parmi les multiples systèmes possibles de notation. Les Nambiquara n'écrivent pas de la même manière que l'ethnographe écrit dans son bloc-notes, puisqu'ils ne possèdent visiblement pas un système de notation phonétique. Mais Lévi-Strauss, selon Derrida, est trop précipité dans sa catégorie de ce peuple comme illettré ou sans écriture. L'interprétation théorique de l'écriture par Lévi-Strauss semble à Derrida indûment restrictive, résultant d'une conception limitée. Pour Derrida, c'est la différence couramment admise entre langage et écriture, l'extériorité rigoureuse de l'une à l'autre, qui permet d'abord de maintenir la distinction entre peuple disposant de l'écriture et peuple sans écriture. Selon Derrida, Lévi-Strauss avait besoin de ce concept épigénétique de l'écriture pour que le thème du mal et de l'exploitation survenant avec la graphie fût bien le thème d'une surprise et d'un accident affectant du dehors et comme par hasard la pureté d'un langage innocent. L'idéal qui sous-tend en profondeur cette philosophie de l'écriture, c'est donc l'image d'une communauté immédiatement présente à elle-même, dit Derrida, sans différence, communauté de parole dans laquelle tous les membres sont à portée d'allocution. Ce modèle de petite communauté à structure cristalline, tout entière, présente à soi, rassemblée dans son propre voisinage, pour Derrida, et sans doute rousseauiste. Le correctif de Derrida à la dichotomie entre espace interne et externe, impliquant l'innocence et la corruption, la proximité et l'aliénation, l'authenticité et l'artifice, ainsi que d'autres oppositions similaires, est de suggérer que la corruption, l'aliénation et l'artifice sont déjà au travail dans le système, qu'ils font partie du système et qu'ils sont inhérents à sa dynamique, mais qu'ils sont projetés en dehors du système décrit. Ce qui devait en effet être considéré comme originaire d'un système et comme essentiel à sa persistance et même à son existence, ici l'écriture et la violence, est considéré comme un complément inessentiel et même dangereux. Une opposition binaire est donc posée entre un noyau ou une origine pure et intérieure, prétendument dans le langage et la voix, et la médiation extérieure de ce noyau ou cette origine à travers l'écriture. Or, la distinction de Derrida entre le langage et l'écriture est inutile, et son opposition au logocentrisme n'est que beaucoup de bruit pour rien. De toute évidence, Derrida oublie ici que le principe fondamental de l'analyse structurale et de rendre compte du fait même de la différence ou des systèmes de différence et non des moyens ou des médiums, qu'ils soient phonocentriques ou grammatocentriques, dans lequel la différence est elle-même actualisée. La signification est donc la violence, pour rappeler une phrase célébrée, et cette différence qui fait la différence, peu importe comment elle est définie, décrite ou inscrite, que ce soit dans le langage, l'écriture, la dénomination, le code génétique, les chaînes d'information, les circuits cybernétiques, les récits mythiques ou les objets cosmiques. Une différence significative puisse devenir violente est simplement une exemplification de l'argument de Lévi-Strauss selon lequel cette possibilité découle de l'appartenance à un système de différence.
Merci. Juste pour bien tenir le temps, parce que nous avons déjà pris un peu de retard. Pardon, cher Albert Deja. Donc, vous avez terminé?
Non, pas encore.
Juste peut-être une phrase de conclusion, parce qu'on va...
Oui, tout à fait.
Pour rappeler ce moment séminal que vous avez parfaitement décrit.
Je suis un peu perdu
j'ai les problèmes techniques.
Dans mes notes.
Écoutez, ce que je vous propose, c'est que je vous redonnerai très brièvement la parole dans 5 minutes. On va refaire juste un petit tour de table extrêmement réduit, mais il nous reste vraiment 5 minutes globalement pour cette table ronde. Donc, je vous en prie, c'est qu'on est tous dans des conditions un peu difficiles. La technique nous brouille le cerveau. Peut-être une question à Véronique Paquin, parce que je vous remercie à tous les trois d'avoir... était scrupuleusement attentif à identifier le moment qui vous paraît inaugural. Et je voudrais peut-être revenir sur un point qu'on a peut-être moins abordé, que vous avez suggéré, c'est sur le rapport au marxisme. Effectivement, le fait à la fois que le déconstructionnisme actuel est en continuité et en rupture. Oui. Avec l'idéologie marxiste, et je pense que voilà, c'est un point sur lequel, avant la prochaine table ronde dans 4 minutes, sur lequel on pourrait revenir brièvement.
Oui, alors... Donc,
peut-être le masque...
Le déconstructionnisme est une idéologie révolutionnaire dans son moment actuel, même si certaines formes sont diluées, plus ou moins à la mode, etc. Le noyau est quand même celui d'une idéologie révolutionnaire, et c'est en tout cas ce que j'ai observé chez Balibar. Chez Balibar, c'est un communisme identarisé. Et il est retourné de manière tout à fait étonnante par rapport à toute une série de choses qu'on pourrait trouver chez Marx, et contre tout. Ce qui rattache à l'universalisme et à la laïcité une certaine gauche qui a pu se réclamer de Marx de près ou de loin. En tout cas, l'évolution vers la déconstruction n'a atteint Balibar qu'à partir de la crise du communisme. Et donc, on pourrait fixer des moments, mais là, j'essaie d'accélérer par rapport à ce que vous m'avez indiqué comme minutage. En tout cas, il commence par une mise en cause du Parti communiste français sur un défaut de démocratie interne, mais aussi sur un nationalisme, enfin par opposition à un nationalisme supposé raciste chez ce parti, dans ce parti qui refuse de se réorganiser complètement sur des bases internationalistes pour accueillir l'immigration de manière inconditionnelle. Donc il y a une rupture forte sur ce thème-là et une réorganisation de sa pensée autour de l'ethnicité et de la race. Alors, ce qui se produit est extrêmement curieux, mais on pourrait dire avec Brecht, avec beaucoup d'ironie, qu'il a changé de peuple. Il a changé de peuple, c'est-à-dire que le premier prolétariat... n'étant plus tout à fait un prolétariat puisqu'il avait l'audace d'avoir obtenu une vie sociale, des conditions de vie sociale qui faisaient qu'il
ne ressemblait bourgeois, plus.
Pardon ?
Il est devenu bourgeois. Le
ah, bon, disons qu'il ne ressemblait plus au prolétariat du 19e siècle, parfaitement dépourvu de tout. Ce rôle pouvait être joué, par contre, par le prolétariat originaire des anciennes colonies, etc. Donc, il y a un déplacement qui se fait là. Une mise en cause de l'universalisme laïque et républicain qui va se faire à partir de cette orientation-là. Une jonction se fait avec des causes identitaristes qui sont en train de fermenter dans les universités américaines sur le thème de la race, sur le thème de... Alors, la religion est rattachée à la race, hein, sur le thème de, du genre également. Et tout ceci a abouti à un escamotage opportun de la classe. La jonction se fait aussi avec des thématiques américaines sur la cause postcoloniale. Bon, alors une double déconstruction corrélée s'opère, celle de l'universalisme républicain qui se fait en même temps que et avec la déconstruction de la citoyenneté nationale. Bon, puis tout ça va très loin, puisque dans cette voie-là, Balibar va se présenter assez vite comme quelqu'un qui explique qu'on n'est pas sorti du théologico-politique. Malgré la perception de la dangerosité de mobilisation fondée sur la race ou sur la religion qu'il perçoit, malgré certaines inadéquations des positions radicales sur le genre, il va passer outre parce que c'est toujours une logique de positionnement partisan qui va l'emporter. Et la classe, pour finir, sera reléguée en dernière place. Vous avez parlé de l'intersectionnalisme. Bon, c'est une casuistique qui, en pratique, fait passer au dernier lieu, en dernière place, la classe actuellement. Alors, il y a un dernier point qui me paraît important concernant l'idée que c'est une dynamique propre à la démocratie, donc parfaitement légitime et présentable, qui aboutirait à ce type de contestation. C'est typiquement l'argument qu'a approfondi Balibar depuis des années. Il ne fallait plus désormais attaquer les droits de l'homme, mais en faire une machine de guerre contre la démocratie libérale. Et en expliquant que, après les roturiers, après les ouvriers, après les femmes, après les homosexuels, il fallait prendre en compte les migrants jusqu'à la suppression des frontières, sans quoi la citoyenneté ne serait plus qu'un statut au sens antique. Bon. Alors, l'universalisme républicain ne se décrète pas, il se construit. Voilà la belle proclamation qui servait de titre à un article dénonçant ce colloque avant même sa tenue. Eh bien, ce qui se passe derrière, je veux dire, ce peut être en effet un projet de destruction l'État, tel que le souhaitent des partisans d'une pensée révolutionnaire. Il faut aussi comprendre que cette manière de tout réorganiser à partir de la question des droits de l'homme permet de rallier les adversaires libéraux de l'État-nation. Et en mettant, disons, l'accent sur le pôle insurrectionnel de la démocratie, par opposition à son pôle institutionnel, Balibar a radicalisé la pensée de Claude Lefort sur ce thème de la démocratie. Elle est allée assez loin pour que aujourd'hui sa pensée remette en cause le principe même de la sécularisation à l'échelle de plusieurs siècles. Bon, comme il n'ignore pas le grand récit hegelien de la libération de l'individu par rapport aux appartenances primaires, tribales, familiales, ethno-religieuses, Ils n'ignorent pas non plus la reprise par Marx, puis par Max Weber, de ce processus. Ils affirment que c'est aujourd'hui la forme de l'État-nation qui est en crise et non pas l'hégémonie du religieux, dont nous ne serions absolument pas sortis. Alors, par exemple, il va soutenir un islamiste comme Talal Assad pour dire qu'on ne peut pas s'attaquer à la non-séparation du religieux et du politique dans l'islam, puisque l'on ne devrait pas avoir affaire, on ne devrait pas s'attaquer à une autre culture. Hein, et voilà le genre d'argument qui est mis en circulation dans le milieu militant. En l'occurrence, il s'agissait de la LDH en 2008. Voilà. Donc, ce n'est qu'un exemple, mais je pense qu'il est significatif.
Oui, un exemple emblématique. Une réaction de Pierre, et puis Albert, hélas, on vous prend 10 secondes, si c'est encore possible techniquement, et pour vraiment passer à la table ronde suivante. Pierre.
Oui, je vous lis une citation d'une ligne de Messali Hadj, leader du nationalisme algérien. L'expérience et le temps prouvèrent que les leaders français, qu'ils appartiennent à l'extrême gauche ou à l'extrême droite du gouvernement, ont la même politique coloniale. Donc je crois que la disqualification du Parti communiste français par la guerre d'Algérie, et qui a été amplifiée par mai 68, en le repoussant du côté de la classe ouvrière française et du patriotisme français, a ouvert un espace très grand aux intellectuels dont je parlais tout à l'heure et dont vous parliez, et dont on vient de parler à l'instant. Et ces intellectuels qui ont... C'est pour ça que c'est vrai que cette pensée, elle va naître dans la destruction de l'Algérie, mais elle va gagner une partie de la jeunesse en mai 68, et elle va s'incarner institutionnellement dans la nouvelle institution qu'a été l'université de Vincennes, puis l'université de Saint-Denis Paris 8. Et moi, j'y ai été... cette expérience a commencé au début des années 70, et il se trouve que j'y ai été jeune chargé de cours au début des années... 90, c'est-à-dire 25 ans plus tard. Moi, la pensée woke, je l'ai connue là-bas, elle ne m'a jamais surpris, j'ai l'impression de l'avoir toujours fréquentée à travers cette institution, mais je suis arrivé à un moment très particulier où effectivement la filiation avec le marxisme, avec le trotskisme, avec ces idéologies étaient plus que présentes, elles étaient hégémoniques. Donc, si vous voulez, il n'y avait pas de contradiction entre la pensée 68, la pensée de la déconstruction. Alors, c'est vrai qu'il y a eu l'îlot de l'école normale supérieure aussi, mais je pense que ça a vraiment été un lieu où ces idées ont germé. On parle souvent de l'Amérique comme de l'incubateur. L'incubateur, il se trouve aussi à Paris, et notamment à Paris 8. Et pour terminer, donc, je suis arrivé à un moment où ce système a achoppé, parce qu'au fond... Les jeunes étudiants de 68 qui sont allés construire Vincennes, ils avaient disparu de l'université de Saint-Denis dans les années 90 et ils avaient été remplacés par les jeunes enfants de la banlieue nord, c'est-à-dire par les jeunes enfants de l'immigration algérienne notamment, qui eux voulaient tout simplement ne pas faire la révolution, mais devenir infirmière ou instituteur. Et là, il y a une espèce d'impasse dans laquelle mes collègues étaient finalement, à laquelle ils étaient confrontés. Je pense qu'il a fallu presque 20 ans pour qu'on reconnecte un professorat, une classe intellectuelle avec un milieu étudiant, c'est-à-dire ce qu'on vit aujourd'hui. Il a fallu 20 ans pour retrouver des incubateurs de cette pensée, d'où la diffusion très impressionnante, parce que pendant les années 90-2000, au fond, il y avait ce public de Paris 8 et la transformation de cette université avait en quelque sorte cassé la chaîne. Je ne sais pas si c'est clair, mais...
Oui, très très clair. Oui. Merci beaucoup. Albert, on va être vraiment pris par le temps. Est-ce que peut-être deux phrases, parce que
je voudrais juste conclure en deux mots que on pourrait dire que l'une des conséquences actuelles de l'interprétation de l'écriture par Lévi-Strauss serait, par exemple, l'imposition de l'écriture inclusive, qui semble coïncider de la même manière avec la hiérarchisation et l'exclusion ou toute autre impasse d'une société réchauffée, je dirais, par la violence de parler et d'écrire au nom de supposées minorités discriminées et oppressées. Comme la singerie de l'écriture chez les Nambikwara, pour paraphraser Lévi-Strauss, l'écriture inclusive a fait également son apparition parmi nous, mais elle est utilisée comme un symbole et pour un objectif politique plutôt qu'orthographique, tandis que sa réalité référentielle demeure hors de propos. Il ne s'agit pas d'acquérir et de maintenir un savoir, mais plutôt d'appuyer les allégations et l'autorité de certaines franges minoritaires aux dépens des autres. En revanche, un certain nombre de critiques ont déjà suggéré que le postmodernisme, en anthropologie en tout cas, ne fournit pas aucun nouveau développement théorique, si ce n'est la scolastique arrogante et la désinformation délibérée de Derrida. Malgré son apparat de radicalisme politique et intellectuel, l'anthropologie postmoderne est dans certaines de ses hypothèses une entreprise déprimante et réactionnaire. Elle peut être perçue comme une menace plus importante lorsque les débats sont situés dans le contexte intellectuel de la lutte pour la hiérarchie académique. Dans ce cas, les préoccupations scientifiques sont progressivement déconstruites en nom d'une position désespérément recherchée dans la condition postmoderne de la division intellectuelle du travail. Ne serait-ce que la vieille opposition supposée de Derrida contre le logocentrisme, dans la situation actuelle, n'est autre chose que de faire croire que, comme l'écriture, un certain nombre de concepts endémiques du mal et de l'exploitation, tels que le sexisme, le racisme ou le colonialisme, sont au travail dans le système. Ils font partie du système et sont inhérents à sa dynamique, mais le système est censé les projeter délibérément en dehors de lui-même, pour utiliser les termes de Derrida. Ils sont systémiques, dira-t-on aujourd'hui. Ainsi, la culture woke, ou éveillée de l'écriture inclusive, des théories et pratiques du genre, du racialisme, de l'indigénisme, de l'islamo-gauchisme, de l'écologisme, ou de toute autre intersection d'une société refroidie, par le bourrage de crâne des mythes de la déconstruction et du décolonialisme, fournit à nouveau une voie similaire au signifiant flottant de la spéculation philosophique. Dans ce cas, il ne s'agit pas cependant d'une critique innocente, mais en effet d'une guerre de culture d'annulation, alimentée par une tentative politiquement woke ou éveillée, afin d'ignorer, de contester et finalement de rejeter la culture de savoir constructif plus large du projet anthropologique, analytique et scientifique. Or, c'est justement ce projet scientifique qui est déjà préfiguré chez Lévi-Strauss et qui s'illustre de façon exemplaire dans la démarche scientifique portant sur les simulations des systèmes complexes de la réalité sociale, qui servira à coup sûr d'une piste bien tracée pour permettre de reconstruire la culture de connaissance que les travaux de ce collègue s'engagent à mettre en valeur, j'espère.
Merci beaucoup, Albert. Merci pour vos interventions. On peut vous applaudir pour avoir parfaitement respecté l'objectif de cette table ronde avec déjà des pistes extrêmement importantes. Donc, j'invite Xavier à venir me remplacer en rappelant qu'il est, parmi d'autres choses